On va relire les versets 1 à 13. Ça va être pour s'introduire à ce qu'on va voir au début, mais tu sais, on a lu le chapitre au complet, puis vraiment, c'est le chapitre au complet qui est l'objet de notre attention ce matin. Quel chapitre, comme je le disais tantôt, le cœur, ou certains disent le sommet d'Éphésiens. On atteint un sommet théologique vraiment extraordinaire dans ce chapitre. Et donc, on relit les versets 1 à 13 qu'on avait lus avant le temps de prière. Donc, Éphésiens chapitre 3 et au verset 1, ça dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce, je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. » C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 7. « Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Merci Seigneur qu'on peut s'arrêter avec ce passage tellement merveilleux, Seigneur. Vraiment tellement important dans la révélation du Nouveau Testament. Le mystère révélé. Des richesses incompréhensibles de Christ. Seigneur, on veut sonder ce mystère. Tu nous l'as révélé, mais dans l'expression même, richesse incompréhensible de Christ, on voit comment c'est grand, c'est inépuisable. Donc, on te prie que tu nous ouvres les yeux sur tout ce qui est en Jésus-Christ et que nous sommes, nous, tes enfants, ce que tu as fait de nous. Seigneur, merci qu'on peut prendre ce temps et que toi-même, tu nous enseignes, Seigneur. Convainque. Fais pas juste nous enseigner. Convainc-nous, Seigneur. Transforme-nous. Fais une œuvre extraordinaire au milieu de nous. On te le demande pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Dans les versets qu'on a lus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste pour un petit... en guise d'introduction, quelque chose d'important à remarquer. Vous savez, la parole s'authentifie comme étant la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, c'est pas nous qui avons inventé ça. En fait, juste remarquer au verset 3, ça dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. » Donc, ici, on voit que la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu à l'homme. OK? Ceux qui ont fait des cours de théologie, vous savez que c'est un mot bien important. Savez-vous, il y a une autre expression qu'on voit tout de suite après. Ça dit « Que je viens d'écrire en peu de mots. » Savez-vous, c'est quoi ça? Ça, c'est l'inspiration. OK? Parce que ça nous dit que ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes, dont Paul ici, a parlé de la part de Dieu. Mais même la préservation, regardez au verset 4, ça dit « En les lisant, Dieu avait préservé ce que Paul avait écrit. » Puis eux, ils lisaient le 2000 ans, puis on lit encore 2000 ans plus tard. Dieu a donné sa révélation, il a inspiré les auteurs bibliques, les écrivains bibliques, puis a préservé sa parole. Vous dites que c'est tout qu'un passage. Ça, c'est juste vraiment... Ça, c'est gratuit, là. C'est une parenthèse. Ça coûtait rien. C'était pour vous autres. Une autre chose que j'aimerais qu'on remarque, cette section, comme j'ai dit, qui est très importante dans Éphésiens, le sommet d'Éphésiens, est précédée par dans le chapitre 2, quelque chose de très important, la paix. On pourrait dire que ce qui vraiment caractérise le chapitre 2 qui précède, c'est la paix. Pourquoi? Parce que Dieu a fait, si vous étiez un enfant de Dieu, vous avez la paix avec Dieu, mm-hmm. par Jésus-Christ notre Seigneur. Mm-hmm. Et si vous marchez avec Dieu et que vous jouissez de sa grâce, et qu'en marchant en communion avec lui, vous avez la paix de Dieu aussi qui surpasse toute intelligence. Et ça, c'est vraiment le fruit de l'œuvre de Christ envers nous, les païens. Quand il dit les païens, là, ça c'est nous, parce que Paul est un juif. Donc, il écrit, lui, en tant qu'apôtre, qui avait son ministère envers nous, les païens. Mais c'est bien spécial parce que nous étions hostiles, pas juste nous autres ici quand je parle avant de connaître Christ, mais les nations en général, les païens, étaient hostiles à la personne, à l'œuvre de Dieu et à son peuple aussi. Et même on voit ça ressurgir encore à notre époque. On appelle ça de l'antisémitisme. Mais il y a plus que ça, la paix, c'est pas juste quelque chose que Jésus donne à son peuple, c'est ce qu'il est pour son peuple. Pourquoi? Ça dit ça au chapitre 2, verset 14. « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. » Donc, lui, le prince de paix, hein, comme ça a été prophétisé dans Ésaïe au chapitre 9, il est le prince de la paix dans le sens de chef de notre paix, l'auteur de notre paix. C'est lui qui nous a donné sa paix, c'est lui qui est notre paix. Et donc, c'est dans ce contexte-là, je vais prendre le temps de situer ça, qu'on lit chapitre 3. Avec toute cette paix, cette réconciliation de l'homme avec Dieu et des hommes entre eux autres, Dieu, ensuite, il nous amène le chapitre 3 qui nous parle de ce grand mystère. Et ce dont il est question ici, c'est le grand mystère du Nouveau Testament que vraiment, spécialement, Paul s'est fait confier la révélation. Et ce mystère, pour le prendre dans les mots de Colossiens, c'est Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais dans les mots de notre texte ici, c'est à moi qui suis le moindre de tout, verset 8, excusez, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. C'est des richesses parce qu'elles sont tellement vastes, sont tellement grandes, sont tellement précieuses qu'elles dépassent notre compréhension. Des richesses incompréhensibles. On ne peut pas en comprendre la grandeur. On ne peut pas en comprendre la vaste étendue. Mais c'est pourtant par elles que la sagesse infiniment variée de Dieu, verset 10, est manifestée par nous, son corps, l'Église. Or, l'Église est le corps de Christ, et ça, un corps, savez-vous, c'est comme un véhicule. Le corps de Christ est le véhicule par lequel il accomplit sa volonté sur terre. C'est comme ça que ça marche. Tout comme pour nous, hein? On a un corps, puis on accomplit dans nos corps la volonté de Dieu. Et juste, je veux donner deux références par rapport à ça. D'abord, Hébreux 13, 20 et 21. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. » Ça, c'est dans notre corps qu'on fait ça. « Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et regardez aussi la prière d'Épaphras dans ce sens-là, dans Colossiens 4, 12. « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits ou matures, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. » Et donc, c'est ce que le corps de Christ fait la volonté de Dieu sur terre. Et cette volonté, ultimement, c'est de faire connaître Christ. Et ça, on a de Philippiens 3:8 qui est tellement beau. Et même, je regarde toutes choses, ça c'est Paul qui donne son témoignage personnel dans Philippiens 3. Philippiens 3:8, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Mm-hmm. Le but de Paul dans sa vie, c'était de connaître Christ. Mm-hmm. Puis ça parle de la communion de ses souffrances même. Connaître Christ pour le faire connaître. En quelle année que ça a été notre thème? Je pense que c'était 2018 peut-être. Ça a été notre thème déjà, connaître Christ pour le faire connaître. Ainsi donc, le rôle de l'Église, selon le texte qu'on a ici, c'est de faire connaître, ou pour prendre le mot pour notre thème, révéler les richesses incompréhensibles de Christ. C'est pour ça qu'on est encore sur Terre. C'est pas pour nous-mêmes. C'est pour lui, c'est pour sa gloire, c'est pour le révéler lui. Et on est des instruments dans ses mains pour ça. Donc on va voir comment ça se fait dans une église comme la nôtre, locale et au niveau beaucoup plus global dans son corps. On va voir quatre manifestations ou révélations, si vous voulez, des richesses incompréhensibles de Christ. D'abord, les accomplissements de Christ. Dans les versets 9 à 13 qu'on a lus, ça parle de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. OK? Ça parle ici de mettre en lumière. Le mot pour mettre en lumière, c'est le mot duquel on a photographie, photizo. OK? Puis c'est drôle parce que le moyen, en anglais, ça dit fellowship. C'est vrai, c'est le mot, c'est koinonia. OK? Le mot pour communion. Puis après ça, on a encore le mot pour lumière, pour faire connaître. Je ne veux pas être trop technique avec ça, mais juste pour vous dire, c'est comme si Dieu nous dit, Dieu veut mettre la lumière sur la lumière. OK? Dieu rajoute révélation sur ce qu'il avait déjà révélé. Oh, c'était pas la première fois que Dieu disait quelque chose, là, mais il rajoute plus de lumière. Et le moyen par lequel, dans la vieille Louis II, ce verset 9-là, ça dit, et de mettre, le vieil Louis II, c'est 1910, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose. C'était un mystère caché que Dieu a fait, a révélé. Il a mis la lumière sur ses vérités. Et c'est maintenant l'objet de notre communion, le moyen de par lequel c'est mis en lumière, c'est les uns avec les autres dans le corps de Christ. Comment? L'union des Juifs et des païens sont maintenant unis en un, en Jésus-Christ. Donc, c'est révélé. OK? Ce qui avant était caché, qui n'était pas. Maintenant, on le voit. C'est, la lumière a été mise, on voit des Juifs et des païens ensemble. Hein? Dans un même corps, un en Jésus-Christ. OK? Puis même pour nous, bon, la dernière fois, j'ai vérifié, il n'y a pas de Juifs dans l'Église, de personnes de nationalité juive, mais on peut dire des différentes nations même. OK? Un en Jésus-Christ. Et ce mystère n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Tout comme l'union du croyant avec Jésus-Christ, cette union organique, hein, qu'on est uni à Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est des choses qui n'étaient pas révélées dans l'Ancien Testament. On en voit des types, on en voit des images, mais les saints de l'Ancien Testament ne se sont pas fait. Nous, on regarde un peu en tricheur des choses dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on peut voir certaines choses, mais ce n'était pas révélé ouvertement au sein de l'Ancien Testament. Et la question, c'est comment Dieu a jeté la lumière sur ce mystère? Bien, on a la réponse au verset 5. Il a été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations par l'Esprit Saint aux apôtres et prophète de Christ. La prédication apostolique, la prédication néo-testamentaire, c'est comme ça que Dieu a fait connaître le mystère, la prédication de la parole, la proclamation de la parole. Ça veut dire que le grand et ultime accomplissement de l'œuvre de Christ, OK? La croix, le tombeau, la résurrection, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, tout ça, c'est mis en lumière par la prédication de l'Évangile, la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Je vais vous donner deux références par rapport à ça. D'abord, 2 Timothée 4, 17, ça dit, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. » Donc ça, c'est ce qu'il dit dans 2 Timothée. Ensuite, dans Tite 1.3, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre du Dieu sauveur. Donc, voyez-vous, c'est la prédication apostolique, la prédication néo-testamentaire qui a fait connaître le mystère caché, mais spécialement par rapport aux accomplissements de Christ. OK? Christ, son accomplissement ultime, on dit c'est la croix, mais ses accomplissements, on peut le mettre au pluriel, la croix, l'ensevelissement, la résurrection, l'œuvre parfaite et accomplie de Christ une fois pour toutes. Donc, c'est par la prédication encore aujourd'hui, OK? Bon, on n'est plus des apôtres, là, sont passés des apôtres, mais on est sur le fondement des apôtres. C'est par la prédication que l'œuvre de Christ, la croix, la résurrection, est mise en lumière, est mise de l'avant. OK? Et c'est comme ça qu'est manifesté qui Dieu est. Les gens qui veulent connaître qui Dieu est, c'est révélé par... Wow, j'ai une... Une araignée. Y a-t-il quelqu'un un mouchoir? L'araignée est juste là, elle est au-dessus de moi. Non, non, donne-moi l'araignée. Bon.
Assassin, non.
OK. Donc, je disais, wow, ça distrait quelqu'un, ça. OK. OK, je retourne à ce que je disais. La manifestation, c'est ça, de qui Dieu est, nous a été donné par la prédication apostolique et est encore donné par la prédication de l'Évangile. Dieu se révèle tel qu'il est par la prédication de la parole et spécialement pour nous, comment Dieu se révèle en Jésus-Christ. C'est le moyen pour lequel on peut réellement connaître Dieu et aussi pour nous qui sommes ici, qu'on peut avoir une réelle communion, union spirituelle. OK? Juste à ce sujet-là, je pense que c'est ça toute l'idée derrière l'ordonnance du repas du Seigneur, ou ce qu'on appelle aussi la communion. Ça garde les accomplissements de Christ, ou je peux le mettre au singulier, l'œuvre de Christ, ça la garde au centre de l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu savait que par défaut, l'homme veut se remettre au centre. Donc, il veut qu'on garde la prédication de l'œuvre de Christ avec le repas du Seigneur, puis ça, c'est juste un aspect, mais c'est pour ça que même nos réunions sont centrées sur, on a un temps dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut garder l'œuvre de Christ au centre, ses accomplissements, OK? Mais il y a même plus, je crois aussi qu'un ministère de la parole dans une église comme la nôtre qui est fidèle à ce qu'on voit au verset 9, de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toute chose, OK? Une prédication qui est fidèle à faire connaître ce mystère-là, à prêcher Christ, Christ, la pleine révélation de Dieu. Ça va produire une manifestation du type de versets 10 et 11. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne sais pas ce que tout ça, ça l'implique, mais une Église qui prêche Christ, qui exalte la croix, son œuvre, ça a même des répercussions dans les lieux célestes. Ça dit, ça fait connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. OK, peut-être que c'est déjà accompli dans le passé. Dieu a déjà fait, il y a quelque chose d'accompli là-dedans. Mais quand on continue de mettre ça de l'avant, l'accomplissement de Christ, il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel. Puis ça va encore plus loin. Regardez le verset 12. En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et donc, non seulement lorsque Christ est prêché comme ça, lorsque son œuvre, ses accomplissements sont comme ça mis de l'avant par la prédication de la parole de Dieu, ça va produire une confiance, une hardiesse chez son peuple. Parce qu'on se rappelle ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait de nous, ce que vraiment tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Et ça, mes amis, c'est le secret de l'endurance, de la persévérance dans les temps difficiles, comme au verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Lorsque Christ est prêché, qu'il est mis de l'avant comme ça, c'est le genre de fruit que ça produit. Maintenant, tous ces bienfaits, c'est le fruit des accomplissements de Christ. lorsqu'il est prêché, lorsque l'évangile complet, l'évangile tel qu'il est proclamé. Pas avec les adaptations ou le clean-up, là. Tu sais, les humains, des fois, on aime ça tourner les coirons un peu pour être un peu au bout du jour. Essayer de rendre l'évangile acceptable. On sait que c'est de l'apostasie de faire ça. Il n'y a pas une place dans la Bible que les serviteurs de Dieu ont voulu rendre le message de Dieu acceptable. C'est le message de Dieu, c'est non négociable. C'est nous qu'il faut qu'il l'accepte. C'est pas Dieu qu'il faut qu'il s'arrange pour que nous, on trouve ça palatable. Politically correct, c'est ça. Non, le seul message original, c'est celui qui doit être proclamé.
Amen.
Et c'est ça qui va porter le fruit que Dieu veut que ça porte. Il n'y a rien qui va porter du fruit comme l'évangile de Christ, ses accomplissements, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. N'est-ce pas ce que Paul rappelle? C'est ça l'évangile. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Hein? Il a prêché, c'est ce qu'il a prêché. Et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Et pour lequel, et par lequel, pardon, vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Mes amis, quand ça reste le centre, les accomplissements de Christ sont mis de l'avant. C'est ce dont Dieu va servir pour bâtir son œuvre. Et n'est-ce pas la ligne directrice de Paul, comme il nous le dit dans Galates au chapitre 6, versets 14 et 15, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. » Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et ça, c'est par la foi dans l'œuvre parfaite de Christ. C'est le premier point. Le deuxième, donc les accomplissements de Christ, ça fait partie de ses richesses incompréhensibles. Ok, on regarde les richesses incompréhensibles. Il y a aussi ses offices, les offices de Christ. Regardez le verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Vous allez voir, il y a une logique. On a parlé de prédication. Là, ici, on voit qu'il fléchit le genou. On va parler de prière. C'est dit ici, à cause de cela. À cause de quoi? À cause des afflictions qui étaient parlées. Perdez pas courage, Éphésiens. OK? Parce que les afflictions que j'endure, c'est ça, c'est votre gloire. OK? Dieu a un but avec ça. Dieu est un Dieu qui a toutes choses sous contrôle et qui poursuit un but avec toutes choses. Donc, à la lumière de tous les accomplissements de Christ, à la lumière du fait que Dieu est souverain, Paul il dit « Je fléchis le genou ». Autrement dit, Paul répond à l'affliction, au problème, en priant devant le Père, au nom de Christ, par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait, il voyait, il considérait Christ dans ses offices. Et là, je vais vous dire c'est quoi exactement les offices de Christ. Christ est notre médiateur. Il est un avocat auprès du Père. Il est notre souverain sacrificateur. Il est notre intercesseur. Il est notre berger. Il est notre roi. Il est notre ami.
Amen.
C'est ça qu'on se rappelle dans la prière, n'est-ce pas? Puis Paul se rappelait de ça. Il y avait un Dieu comme ça qui pouvait prier. Le Père, à cause que Christ se tenait dans ses offices de souverain sacrificateur, de berger, d'intercesseur, de roi, et comme ça, il pouvait prier au Père, peu importe ce qu'il pouvait vivre. Et c'est par le ministère de la prière que nous nous concentrons sur la personne de Christ dans ses offices, qui nous garantissent que le Père est favorable. C'est à cause que Christ est notre souverain sacrificateur qu'on a de la confiance devant Dieu. C'est parce qu'il est notre avocat auprès du Père, qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'on a confiance, pas parce qu'on arrive et qu'on va... Hey, aujourd'hui, là, je me suis qualifié. Puis... C'est pour ça qu'il nous donne de la confiance. C'est les offices de Christ, c'est ce qu'il nous révèle sur sa position comme ça, devant le Père. Dieu nous est favorable en Jésus-Christ. C'est la base de notre confiance, de notre espérance. Amen. Et l'espérance est une attente confiante.
Amen.
Je vous lis pour illustrer ça. Ésaïe chapitre 6, verset 1. « L'année de la mort d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe, dans sa vision, a vu un trône très élevé. Et c'est cette vision de Dieu, dans son office de souverain suprême, qui était la base de l'appel d'Ésaïe. Hein? C'est là qu'au chapitre 6, on sait que c'est l'appel d'Ésaïe. Et c'était la base de sa grande confiance à ce prophète, dans un ministère très difficile, rempli d'opposition, de façon constante. Christ et l'Église.
Mais...
lorsque nous pratiquons la présence de Dieu, lorsqu'on voit Dieu comme ça, sur son trône élevé, lorsqu'on le voit, lui, à la droite du Père, notre avocat, lorsqu'on le voit comme étant notre médiateur, lorsqu'on voit Christ comme étant notre berger, notre souverain sacrificateur, lorsqu'on le considère dans ses offices, c'est ce qui va nous donner la confiance dans la prière. C'est ce qui va nous rendre prêts, comme on l'a vu dans Colossiens, à faire toute la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit Dieu tel qu'il est et on le croit dans ce qu'il nous a révélé être. Et ça, mes amis, il y a une grande source de confiance là-dedans. Donc, Christ, ses richesses incompréhensibles, d'abord ses accomplissements, ensuite ses offices, mais aussi son nom et ses titres. Regardez le verset 15. « De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Puis là, on va développer plus après les versets suivants, mais son nom. Savez-vous que Dieu a un nom, mais il a plusieurs titres.
Amen.
Et ça dit, si toute famille dans les cieux, sur la terre, partout, tire son nom de lui. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a un nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom, c'est l'Éternel. Je suis. Et vous dites, ouais, mais ça, c'est pas dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle que Jésus a dit, puis là, dans Jean, c'est tellement merveilleux, à 7 reprises, « Je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie. » Jésus se fait le grand « Je suis » lorsqu'il dit ça. Puis il le dit clairement dans chapitre 8, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ce n'est pas une erreur grammaticale, c'est une déclaration de qui il est. Puis si vous n'avez pas compris, les pharisiens, eux autres, l'ont compris parce qu'ils ont pris les prières et ils étaient prêts à le lapider. Parce qu'il se faisait Dieu. Il déclarait être le « Je suis ». C'est son nom. Et son nom manifeste qui il est. Et les différentes manifestations de qui il est, on a ça dans ses différents titres. Il y a beaucoup de titres. OK? Et pour Jésus-Christ, qui est l'ultime expression de qui Dieu est, ben on a exemple l'agneau de Dieu, le pain de vie, la parole, logos, très intéressant. Je parlais de ça avec Camille. C'est une expression très riche. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit qu'il était le cep, le roc. Okay? Tout ça, c'est des titres de Christ. Et je crois que le nom et les titres de Christ ont une part spéciale, et je dirais même spécifique, dans notre communion fraternelle. Okay? On a parlé de prédication, on parle de prière. Maintenant, parlons de communion fraternelle. D'abord, on a juste lu le verset 15, mais on va lire les versets 16 à 19 et remarquer d'abord l'idée ici d'ensemble. Okay? Je vais le souligner en le lisant. Puis remarquez aussi l'amour de Dieu. Okay? Regardez bien les intonations. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Au verset 15, ça parlait de toute famille. Au verset 18, ça parle de tous les saints. Au verset 17, ça parle d'être fondé dans l'amour. Au verset 19, ça parle de connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est quand même quelque chose. Connaître quelque chose qui surpasse toute connaissance. Voyez-vous comment on parle de richesse incompréhensible? Ces choses-là sont tellement grandes que ça dépasse notre intelligence limitée. Tout ça nous rappelle les nombreux bénéfices de ce qui est révélé dans le nom et les titres de Dieu, qui est la base de notre aide et de notre ministère mutuel les uns envers les autres. N'est-ce pas quand on s'aide, c'est pas ce que moi je peux apporter sur la table qui est important, c'est le Dieu que j'apporte.
Amen.
Et regardant à lui qui est le chef et le consommateur de notre foi, n'est-ce pas ça? Qu'on a tous besoin. Et quand on est en relation les uns avec les autres, on s'exhorte à l'amour et aux bonnes œuvres dans ce sens-là, à Christ. Pourquoi? Parce que Dieu est la seule personne dans l'univers qui peut vraiment nous aider de toute façon. Il est le seul qui a la solution parce qu'il est la solution. Et donc, on a simplement besoin de ramener les yeux sur lui en se rappelant de son nom et de ses titres. Et ça, ça nous parle de son autorité, de la révélation de qui il est. Lorsqu'on prie au nom de Jésus, on prie dans son autorité, il y a quelque chose de grand là-dedans. Maintenant, le rapport avec la communion fraternelle, je veux vous donner l'illustration. Vous savez, dans Job, un autre beau livre de la Bible, dans le chapitre 38, c'est le point le plus important parce que pendant plus que 30 chapitres, il y a de l'engueulage, comme on dit au Québec. Je veux dire, c'est pas très beau, là. Ah, ça se tire d'un bord puis de l'autre. Pis... Finalement, ce qu'on voit, c'est que les hommes parlent, ça finit plus. Puis après ça, Dieu arrête tout ça, puis là, lui, il parle. La première chose qui sort de sa bouche, c'est son nom. L'Éternel.
Amen.
Ça, mes amis, c'est une grande différence. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe quel nom, c'est son nom. C'est pas un titre, c'est pas Adonai, c'est l'Éternel, Yahweh, YHWH, le seul nom de Dieu, je suis. C'est le nom de l'Alliance, c'est le nom qui rappelle qu'il est fidèle à son Alliance.
Amen.
Rappelez-vous quand j'ai dit, avec Israël, quand dans le fond, je suis là, je suis votre paix, je suis votre joie, je suis votre sécurité, je suis tout ce que vous avez besoin, je suis, ok? Et c'est comme ça qu'il se révèle à Job, du milieu de sa misère, du milieu du conflit. Et c'est intéressant parce que on pouvait dire qu'il y avait une espèce de relation d'aide, si on peut appeler ça de même, mais on rit pour trouver ça caricatural, mais plus ça change, plus c'est pareil. Pensez-vous que les psychologues et compagnie sont mieux que les amis de Job? Non, ils sont juste peut-être plus sophistiqués puis ont des mots plus modernes. Mais ça revient au même. Et j'aimerais dire, avec ce qu'on voit, ces gens-là, OK, la relation d'aide qu'on peut dire qui est vaine, OK, ou bon, pour être peut-être plus gentil, on pourrait dire très limitée. Mais le début de la seule relation d'aide valable, c'est lorsque Dieu se présente puis il révèle qui il est.
Amen.
C'est là que tout change. C'est la seule chose dont Job avait besoin pour régler tous ses problèmes. Il a besoin de Dieu, d'une révélation de qui Dieu est, de son autorité, se rappeler c'est qui est sur le trône, c'est qui a permis ce qui arrive, c'est qui est derrière tout ça. C'est Dieu. C'est ça qu'il y avait lorsque Dieu s'est révélé de la tempête. Il a révélé qui il était. Pas ce qu'il imaginait, puis lui puis ses amis imaginaient, mais qui il est vraiment. Dieu est redevenu le centre d'attention,
Amen.
Comme il devait l'être. Et ça, ça porte du bon fruit. Mes amis, quand une église perd le centre d'attention puisque ça devient d'une façon ou de l'autre sur l'homme, on va verser dans mille et un pièges possibles dans lesquels on peut tomber. On a parlé de l'égalisme, de laxisme ou d'un mélange des deux hybride. Mes amis, ça, c'est repoussant. Et des fois, il y en a qui sont sur le bord, pouf, ça les donne la petite poussée pour tomber de l'autre bord. Mais lorsque Dieu est au centre, sa parole, son amour, ce que lui, il est, les gens qui sont sur le bord, boum, ça leur donne une poussée vers le bon sens. Pourquoi? Parce que c'est pas nous autres, c'est Dieu qui attire.
Amen.
Parce que les gens vont être attirés à lui.
Amen.
Et c'est ça qu'on désire. C'est ça, le ministère d'une église, c'est d'attirer les gens à Christ. Et ça, c'est quand son nom et ses titres sont mis de l'avant. Un dernier point, non seulement ses accomplissements, ses offices, ses noms et ses titres, mais ses attributs. Regardez le verset 20 et 21. « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Ce qu'on vient de dire là, techniquement, on appelle ça une doxologie. C'est-à-dire, on donne gloire à Dieu. C'est l'auteur ici qui rend gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Puis pour ce qu'il est. Et je crois que ce qui est manifesté au milieu de nous autres, par rapport aux richesses incompréhensibles de Christ et qu'on considère ses attributs, on voit ça dans notre louange. On a parlé de prédication, on a parlé de prière, on a parlé de communion fraternelle. Parlons un peu de louange. Je crois que les louanges se concentrent spécialement sur les attributs de Dieu. Puis vous ouvrez le livre de Cantiques, c'est pas mal évident, n'est-ce pas? Mais je vais vous donner des références bibliques par rapport à ça. D'abord, dans Éphésiens, juste tourner une page ou deux, au chapitre 5, verset 19. C'est quoi la première manifestation de la plénitude de l'Esprit? On va commencer au verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Qu'est-ce que ça donne quand on est rempli de l'Esprit? On s'entretient par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est lorsque Christ est au centre, c'est ça que ça donne. Puis je vous donne aussi une référence parallèle dans Colossiens chapitre 3 au verset 16. « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » La plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de la parole dans Colossiens, ça déborde, ça va se manifester en chant et en louange parmi le peuple de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de forcer. C'est un chant qui est dans notre cœur. Hein? Le psaume 40, qui je crois que c'est le psaume pour le cantique nouveau, je pense que c'est lui, parce qu'il y en a plus qu'un qui parle de cantique nouveau, mais psaume 40, verset 4, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. » C'est bien au-delà des mots, c'est l'œuvre de Dieu dans les cœurs qui déborde. C'est ça. Et ça ne peut pas être contenu. Et ça, c'est beau, c'est attirant lorsque c'est authentique. Pourquoi? Parce que ça l'exalte qui Dieu est, spécialement dans ses attributs. Et à ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, mais nos temps de louanges, nos temps de chants, des fois en chantant, des fois même quand on fait juste prendre le temps de le dire verbalement, tranquillement assis, comme on le fait en après-midi, ça l'a repris vie. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau là. Pourquoi? Je crois que la raison pour laquelle, c'est parce que Dieu est en train de nous ramener à lui.
Amen.
Et aux richesses incompréhensibles de Christ. C'est un fruit, c'est un résultat. C'est Dieu qui fait ça. Il nous recentre sur lui, dans ses accomplissements, ses offices, son nom, ses titres, ses attributs, et c'est ça que ça donne. En fait, ça donne, pour reprendre un verset que j'aime bien, Hébreux 13, 15, « Par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Il en est ainsi parce que la louange exalte les attributs de Dieu. Je vais vous en donner juste quelques-uns, vous allez voir. Sa miséricorde, n'est-ce pas que des choses qu'on chante? Son amour, sa patience, sa sainteté. Dieu est trois fois saint. Hein? C'est le premier des cantiques dans le Célébrons Dieu. En fait, en anglais, c'est holy, holy, holy. En français, on dit gloire, gloire, gloire. Sa sagesse, sa justice, sa bonté. Ça, c'est les attributs de Dieu. Puis il y en a tellement. Omnipotence, voyez-vous comment nos cantiques regardent de tout? Puis quand on chante, c'est ce que on proclame, c'est ce qu'on exalte. Et c'est une réjouissance, dans le fond, dans ce que nous avons en Jésus-Christ, dans ses attributs qui sont encore là, qui font partie des richesses incompréhensibles de Christ. C'est un trésor dans lequel nous nous réjouissons ensemble, en commun. On s'entretient là-dedans. Ça fait partie d'un ministère d'Église comme on est là. C'est important. Là, je prêche pour la chorale. Tu sais, on dit, oui, je prêche pour la chorale, oui, mais pour, dans le sens, pas juste devant la chorale, mais tu sais, en tout cas. Merci, merci! Voyez-vous comment non seulement les louanges, mais tous les autres bienfaits, tous les autres fruits de ce qu'on considère ce matin, c'est le fruit, ou si vous voulez, la réponse à un retour à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Retourner à lui, ça donne ce genre d'affaires-là. Ça donne la prédication vivante, la prière vivante par le Saint-Esprit. Ça donne une communion fraternelle qui est vivante par le Saint-Esprit et des louanges qui le sont tout aussi. Maintenant, remarquez un point très important. Avez-vous remarqué aussi comment, en ce moment, Satan et le monde s'attaquent à chacune de ces manifestations-là? En ce moment! On parle en disant, il n'y a pas vraiment de persécution, on a le droit de prêcher Christ, OK? Pourquoi la prédication est attaquée de différentes façons? En ligne, c'est pas pareil comme en personne. Un nouveau mot présentiel, la prière, même chose. C'est pas pareil. C'est une attaque spirituelle. C'est l'artificiel au lieu de l'authentique, la communion fraternelle, la distance. Voyez-vous comment il y a vraiment une attaque à ce qui est de Christ, la louange, même chose, on n'aurait même pas le droit de chanter. C'est pas par rapport à nous, le monde et Satan détestent Christ, et nous sommes le maillon faible, parce qu'on est le corps de Christ, notre chef est invincible, mais nous, on est faible.
Amen.
Et c'est vraiment ça qu'il faut voir avec ce qu'on est en train de vivre. Il faut pas voir ça par rapport à ce que nous, comment on peut se sentir par rapport à ça, comment nous, on peut être inconfortable. Il faut voir que c'est notre chef qui est attaqué. Puis on est son corps. Puis je pense que le fruit de la reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait, par rapport aux richesses incompréhensibles de Christ, ça va vraiment donner du bon fruit dans une église comme la nôtre, dans nos vies. C'est pour ça que on doit toujours être dans l'allégresse, dans une joie ineffable, lorsque Dieu nous ouvre les yeux sur ces richesses-là, puis on dit merci, on dit waouh! Au lieu de se demander pourquoi ça arrive, pourquoi ça, ou pour le dire autrement, on se réjouit dans ce qu'on a, au lieu de se plaindre par rapport à ce qu'on n'a pas, ou de demander ce qu'on a déjà. Quand on se centre sur Christ, là, ses accomplissements, ses offices, son nom, ses titres, ses attributs, est-ce qu'il nous manque quelque chose? On a déjà tout pleinement en lui. Mes amis, il y a là deux façons de penser diamétralement opposées, qui donnent deux sortes de vie chrétienne, de famille, d'église, complètement différentes. Une sous le joug du découragement, il m'en manque, j'ai pas assez, puis je peux être amer, je peux être en colère, je peux me sentir coupable. Pourquoi? Parce que je vois tout ce qui peut me manquer, je regarde à ce qui ne marche pas. L'autre, lorsque je vois Christ et les richesses incompréhensibles qui sont en lui, qui sont tellement grandes, veut dire que je ne peux même pas les comprendre. C'est pas que je n'ai pas assez, que je n'ai trop. Je ne peux même pas le comprendre tellement j'en ai des richesses en lui. Il y a une liberté, il y a une joie, il y a une paix, il y a un amour. Quelle différence! Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime mieux être en compagnie du deuxième que du premier. Puis c'est ça la beauté de l'œuvre de Dieu. Mm-hmm. C'est la signature de Dieu. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est juste lui qui peut faire ça. La différence, c'est simplement de vivre à la lumière, d'accepter de recevoir les richesses incompréhensibles de Christ. Je termine avec cette question-là. Est-ce que tu es émerveillé au point d'en être transformé ce matin? C'est ça la puissance de ce qu'on considère. En tant que tel, quand tu fais juste le considérer, ça change complètement tout dans ta vie. Il y a une liberté, il y a une joie, il y a une paix. Tu ne peux pas l'expliquer. C'est comme, waouh! Est-ce que ça te décrit ce matin? Sinon, tu passes à côté de tout. C'est pas juste l'essentiel. Tu manques complètement le bateau. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie chrétienne. C'est Christ. C'est ça la vie chrétienne, c'est toutes les richesses qu'on a en lui. C'est puissant à ce point-là. Et si ton cœur est froid, éloigné par rapport à ce trésor ce matin, prie que Dieu t'ouvre les yeux. Hey, on a vu ça, que Dieu mette en lumière puis faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. Si Dieu l'a fait pour toutes les générations, pour nous les païens, pensez-vous qu'il ne peut pas le faire dans notre vie, de nous révéler vraiment à notre cœur les richesses incompréhensibles de Christ? En fait, dans Éphésiens, encore au chapitre 1, verset 18, ça dit qu'il illumine les yeux de notre cœur pour qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est une prière biblique de demander ça. Dieu, ouvre-moi les yeux. Dieu, je veux m'émerveiller des richesses incompréhensibles de Christ. Alors, demandez-le simplement, avec une foi enfantine, on va voir ça après-midi. Simplement, comme quelqu'un dans le besoin qui va à celui qui donne. Et s'il y en a ici qui ne sont pas encore sauvés, réconciliés avec Dieu, est-ce que tu t'émerveilles de Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde, que Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle? Est-ce que tu es émerveillé au point de t'abandonner à ça, de répondre à un pareil amour, de te donner à un tel Dieu aimant, bon, patient? Reçois le don de sa vie aujourd'hui. Vois ta mort, puis ton besoin de sa vie. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Le salut, c'est passer de la mort à la vie. Puis, on peut jouer la vie chrétienne, on peut tout savoir quoi dire comme figurant chrétien, mais si on n'a pas la vie de Christ, on n'est pas un chrétien. Mais Dieu donne la vie, il est la vie. Et si on va à lui, Jésus a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à moi, qui vient à lui, et qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. On va prier. Seigneur, on te remercie du fait que ta parole nous met devant des choses plus grandes que nature, qu'on ne peut même pas saisir, tellement elles sont merveilleuses, tellement elles sont glorieuses. Seigneur, la vérité, c'est que ce matin, nous tous ici, on ne saisit pas la grandeur des choses qu'on a vues. C'est vraiment incompréhensible. Mais Seigneur, merci que tu révèles ces choses à ceux qui les cherchent. Seigneur, je prie que tu révèles à nos cœurs les merveilles, les richesses incompréhensibles de Christ, que tu illumines les yeux de notre cœur pour qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu réserves aux saints. Seigneur, ton peuple a entendu. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, il a entendu ta parole, il a entendu que Christ a tout accompli, que tout est là et que l'appel est lancé, l'appel de l'Évangile. Et je prie que si cette personne qui écoute est convaincue, voit son besoin, qu'elle voit qu'elle n'a qu'à accepter que tout est accompli, accepter l'œuvre parfaite de Christ. Amen. Seigneur, accomplis ta volonté. Maintenant, on te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous lever.